Bonjour à toutes et à tous, on est avec vos antennes de Radio Campus pour le magazine Lille 1 Info. Et oui, c'est la rentrée de Lille 1 Info aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous allons parler de rentrée aujourd'hui et d'une conférence inaugurale en ce début d'année universitaire avec M. Jean-Philippe Cassard, qui est vice-président de l'Université Lille 1, délégué à la culture et au patrimoine historique, et M. Laurent Brassard, vice-président de Lille 3, délégué à la vie culturelle et la médiation. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà donc, j'allais dire, un grand moment.
Oui, tout à fait.
Avec cette conférence inaugurale qui revient chaque année en début d'année universitaire, avec bien sûr un thème différent, puisqu'il s'agit d'un thème sociétal, donc l'occasion de mettre la réflexion au cœur des projets universitaires de Lille 1 et de Lille 3.
Tout à fait. Oui, ça devient un petit peu un rendez-vous récurrent, cette conférence inaugurale que nous avons d'abord organisée sur Lille 1 et puis qui est devenue, avec la collaboration de Lille 3 d'abord, et puis depuis l'année dernière, portée par l'Université de Lille.
Voilà, donc une tradition, ça s'inscrit dans la durée, avec un thème. Pourquoi ce thème cette année, Jean-Philippe Cassard ?
Alors, le thème, c'est en fait contre le conférencier qui l'a choisi, Jean-Claude Namezen. Ce thème, il tourne autour de deux éléments importants dans notre société actuelle, qui sont la liberté et l'éthique.
Oui, donc, Laurent Brassard.
Oui, l'éthique. L'éthique est aujourd'hui une valeur et un objet de réflexion qui est partagé par toutes les composantes de l'Université de Lille, puisque je ne suis pas là pour faire un cours sur ce qu'est l'éthique. Il y a beaucoup plus qualifiés que moi, des gens plus qualifiés pour le faire, mais l'éthique vient du grec science morale, et elle se différencie de la morale parce que la morale est un héritage, c'est un ensemble de normes, de règles qui nous ont été données, qu'on peut éventuellement discuter, mais c'est un héritage, une donnée. Alors que l'éthique, c'est un processus de construction. C'est une interrogation permanente sur la recherche de ce qui est bien, de ce que les hommes doivent faire dans leur comportement à l'égard de leur prochain et à l'égard de leur environnement. Et donc ce questionnement sur l'éthique est partagé par toutes les disciplines de la recherche scientifique. C'est d'ailleurs aussi loin que remonte la construction d'une pensée scientifique. L'adage « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », je m'en réfère à Rabelais. Cette réflexion sur l'éthique dans la recherche est finalement constitutive à l'émergence d'une pensée scientifique. Et donc, on a décidé cette année de placer cette notion au centre de la conférence inaugurale de l'Université de Lille, parce qu'à la fois, elle illustre ce que veut être l'Université de Lille, c'est-à-dire un pôle d'excellence dans la recherche à l'échelon européen et mondial. Et en même temps, aucune recherche digne de ce nom et digne d'intérêt ne peut être menée sans la moindre réflexion sur l'éthique de sa démarche. Et il nous a semblé donc pertinent d'inviter Jean-Claude Namezen pour illustrer cette réflexion sur l'éthique et notamment son articulation avec la liberté.
Alors peut-être qu'on peut présenter cette personne, cette personnalité.
Alors tout à fait. Donc Jean-Claude Namezen, en fin de compte, c'est, je le qualifierais de deux adjectifs. C'est un universitaire, puisqu'il est professeur d'immunologie, médecin, chercheur. Mais c'est aussi un humaniste au sens de quelqu'un qui a une vision un peu globale sur l'homme. Alors cette vision globale sur l'homme, il l'exprime, il y a deux éléments forts qui expriment son engagement là-dedans. C'est la première, et c'est peut-être pour ça qu'il est le plus connu du grand public, c'est le fait qu'il il est producteur et animateur d'une émission qui s'appelle « Sur les épaules de Darwin » à France Inter. Et c'est une des rares émissions que dans ma famille, même les non-scientifiques et les gens qui sont un peu rétifs hein, aux questions de science, écoutent en même temps que moi sans trouver que c'est barbant. Une émission où on peut entendre parler, par exemple, citer des articles de Nature en expliquant le contenu de l'article, les enjeux, et sans que ça soit rébarbatif, mais au contraire, que ça soit réintroduit dans des questions de société, dans une réflexion sur ce que c'est, ce qu'est l'homme. Hein. Et donc, en fin de compte, c'est vraiment quelqu'un qui fait entrer la science dans la culture. Hein. Et ceux qui l'écoute et qui aiment l'écouter, ou qui aiment lire d'ailleurs ses ouvrages, je pense que c'est ça qu'ils vont chercher dans le travail de Jean-Claude Mamézène.
Donc cette éthique dans la recherche, dans la science, d'une manière globale, est-ce que c'est quelque chose qui peut fédérer une communauté scientifique ?
Mais écoutez, moi, je vous propose une réponse parce que je représente une université de lettres, arts et sciences humaines. Donc, a priori, on pourrait penser que cette université est la moins concernée par la question de l'éthique dans ses recherches. En tout cas, comparativement aux chercheurs en biologie, comparativement à la recherche médicale ou à la recherche nucléaire. Pourtant, l'éthique a toute sa place. Elle est un axe majeur de la réflexion en psychologie. Elle est un axe majeur de la réflexion en philosophie. Et d'ailleurs, preuve de l'importance et de la capacité à fédéraliser et à fédérer plutôt toutes les énergies de recherche. Plusieurs comités d'éthique se sont fondés en région. Il y a d'abord l'espace éthique hospitalier et universitaire de Lille, et il y a aussi l'espace de réflexion éthique du Nord-Pas-de-Calais, dans lequel, aux côtés de professions médicales, aux côtés de chercheurs des universités de Lille 1, de Lille 2, de l'Université catholique, aux côtés de centres hospitaliers, de directeurs de maisons de retraite, eh bien, nous avons aussi des chercheurs en sciences humaines, des philosophes, en l'occurrence un philosophe, Philippe Sabot, pour ne pas le citer, une psychologue, Véronique Christophe, hein, pour ne pas citer, qui sont aussi animateurs et membres à part entière de ces comités nationaux, de ces comités régionaux d'éthique. Donc c'est pour vous dire à quel point ce thème de l'éthique est tellement consubstantiel à la recherche scientifique, quels que soient les domaines de cette recherche, ça nous a semblé être véritablement un thème fédérateur en mesure d'intéresser tout le monde. D'autant que je rebondis sur ce qu'a dit mon collègue et ami Jean-Philippe Cassard, la personnalité de Jean-Claude Mamézène, qui sait à la fois être un brillant chercheur, mais aussi un génial vulgarisateur, a largement contribué à placer l'éthique au centre de la réflexion de la conférence inaugurale de l'Université de Lille cette année.
Alors, cette éthique qui est réfléchie en région, qui, comme on l'a dit, fédère les énergies, les esprits, est-ce qu'on peut la resituer peut-être dans l'éthique globale, voire universelle, des universités du monde ?
Alors, oui, enfin, c'est effectivement, je pense que l'université est au cœur de la cité, donc il n'y a pas une éthique universitaire et une éthique de la société, hein, ou une éthique universelle. Je pense que l'université, en fin de compte, se confrontant à l'émergence de nouvelles connaissances, contribuant à l'émergence de nouveaux produits ou de nouvelles technologies, doit forcément s'interroger sur les dimensions éthiques de ces évolutions. Ça, c'est clair. Et quand on regarde, par exemple, les recommandations du Comité national d'éthique, hein, il est clair qu'elles concernent hein, des éléments qui touchent de manière intime la vie de personne, hein, je crois que c'est ça aussi la caractéristique de l'éthique, hein, c'est que ce n'est pas des principes qui sont désincarnés, c'est des principes qui vont concerner la vie concrète d'un certain nombre de personnes et l'organisation de notre société. Et, par exemple, je vous donne, en 2013, une recommandation sur la fin de vie, avec tous les débats sur l'euthanasie, etc. Mais des recommandations aussi qui sont liées à l'évolution des techniques, par exemple sur les tests génétiques fœtaux à partir du sang de maternelle et de leur utilisation concrète dans la vie des hôpitaux et en particulier dans la gestion des malformations fœtales. Donc, alors aussi d'autres possibilités qui sont offertes maintenant aussi par des recherches scientifiques, des résultats de la recherche scientifique, c'est par exemple la neuroamélioration, c'est-à-dire la capacité par des médicaments ou par des manipulations d'augmenter les capacités, par exemple, du cerveau sur des personnes qui ne sont pas malades. Donc, peut-on intervenir sur quelqu'un qui n'est pas malade, d'un point de vue éthique, pour améliorer ses performances ? Donc, c'est vraiment des questions qui sont au cœur de notre société et sur lesquelles il faudra bien, quelque part, se positionner.
Donc, on peut prendre cette conférence de rentrée comme un point de démarrage d'une réflexion ? Pour l'ensemble de la communauté régionale. Non,
la réflexion est déjà en cours. Il existe, je l'ai déjà dit, des comités d'éthique régionaux, comité, le EHU, Espace éthique hospitalier universitaire de Lille, un deuxième qui est l'espace de réflexion éthique du Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est déjà une réflexion avancée. C'est un sujet dont se sont emparés la plupart des chercheurs ou sur lequel il y a des séminaires, des moments de réflexion. Mais pour rebondir sur votre question, y a-t-il une éthique universitaire ? Non, mais l'éthique est une question universitaire. Parce que puisque l'université a vocation à être dans la cité, les questions éthiques sont des questions de cité. L'université doit aider, non pas donner la solution, mais aider à forger les outils de la compréhension d'une situation morale donnée, donc, proposer un certain nombre d'avancées issues de sa propre recherche pour trouver une solution, mais solution qui émane évidemment des pouvoirs politiques et judiciaires.
Voilà, donc on l'a compris, lundi 22 septembre à 17h30 au Sébasto, ce sera non pas un moment de démarrage, mais un moment de confrontation.
Tout à fait. On peut parler peut-être de confrontation ou peut-être aussi l'occasion pour les gens qui viendront, alors universitaires mais aussi grand public, puisqu'il faut rappeler que cette conférence, elle s'adresse à tout le monde. C'est une conférence qui est entrée libre, ouverte, pour ce grand public et pour les universitaires. C'est peut-être aussi l'occasion de faire le point. D'avoir quelqu'un qui va nous aider à prendre du recul sur ces questions. Et je pense que le fait qu'il situe la question de la dimension éthique aussi en relation avec la liberté, et pas la liberté individuelle comme elle est souvent revendiquée, mais comme la liberté de l'autre, je crois que c'est très important, cette prise en compte de l'altérité dans notre société qui a tendance à se replier plutôt sur la revendication des libertés individuelles.
Voilà, donc vouloir la liberté de l'autre, un enjeu éthique, c'est à 17h30, le lundi 22 septembre. Ça se passe au Sébasto à 17h. Alors, le Sébasto, c'est un terrain neutre entre l'île 1 et l'île 3. Vous avez choisi un espace, on va dire, du centre-ville de l'île, qui est aussi une capacité d'accueil.
Alors tout à fait, nous attendons le grand public, la communauté universitaire, c'est bien évident aussi. C'est un terrain neutre, c'est surtout un terrain qui permet de donner une visibilité à cette conférence. C'est un lieu public, c'est un lieu qui est bien connu des Lillois. Et puis c'est un terrain qui est reconnu aussi par l'ensemble des établissements qui constituent l'Université de Lille. Je rappelle que l'Université de Lille, c'est trois universités, mais c'est aussi six autres établissements d'enseignement supérieur qui se sont associés à ce projet.
Voilà. Oui, Laurent.
Oui, excusez-moi, le théâtre Sébastopol, c'est aussi un lieu symbolique pour placer le débat porté par l'université au cœur de la cité. Parce que ces attentes sur les questions éthiques sont des questions qui sont des questions profondément sociales et sociétales. Et donc, c'est symbolique, le Sébasto, parce qu'on est au cœur de la cité et c'est aussi ce que les universités aspirent à être ou à redevenir, être des institutions, des lieux de pensée, des lieux d'échange, un carrefour, donc se retrouver un petit peu au centre de la vie intellectuelle de nos cités.
Voilà, donc cette conférence démarrera l'année universitaire en septembre. Hein, c'est en septembre, bien sûr. Ça fait. Y est, c'est la reprise, là.
Ah oui, tout à fait. Même, je dirais que on arrive après la rentrée universitaire, presque, hein, puisque les rentrées universitaires dans nos universités sont déjà faites. Hein, oui. Nos étudiants sont rentrés, les premiers cours ont eu lieu. Hein, donc, on est dans, effectivement, ce phénomène de rentrée. Hein, maintenant, il faut le dire, hein, dès le mois de septembre, les universités sont en ordre de marche et les étudiants sont devant leurs enseignants.
Voilà, vous avez tous les deux en charge la culture sur vos universités respectives.
Tout à fait.
Alors, on peut peut-être définir un peu vos projets d'avenir de cette année universitaire. Qu'est-ce que vous avez programmé? Qu'est-ce que vous espérez attirer, sinon comme public, du moins comme artiste, associé, comme créateur peut-être d'ailleurs?
Oui, alors absolument.
Alors
à Lille 3, hein, on va faire séparément, on va présenter chacun un petit peu quelques grandes lignes de notre programmation culturelle. En tout cas, moi, je vais le faire pour Lille 3 pour le premier trimestre. Dans une université de lettres, arts, sciences humaines, on ne pouvait pas passer délibérément à côté d'un événement majeur que la commémoration de la Première Guerre mondiale. Donc, on a décidé de consacrer le mois d'octobre à la commémoration de cet événement, en organisant à la fois une grande exposition, en inaugurant la plaque aux morts de l'Université de Lille, de la faculté de Lille, à la fois étudiants, enseignants. Donc une grande expo à cette occasion, mais aussi une expo doublée de représentations, de performances dansées, une expo doublée de la représentation du théâtral du journal de Katz Kollwitz au Kino de Lille 3, une exposition sur la Grande Guerre et l'université, qui sera aussi doublée d'une rencontre littéraire sur la poésie en temps de guerre, l'occasion de s'intéresser à Wilfred Owen, de s'intéresser à Apollinaire, de s'intéresser aussi à Remarque. Toujours au mois d'octobre, un concert sur les chansons de guerre interprétées par un duo professionnel qui s'est adjoint pour l'occasion d'un chœur étudiant, le groupe Duo Pas de Deux, donc sur un concert qui s'appellera les Song of Poppies. Donc tout ça pour notre mois d'octobre, où je vais laisser la parole à Jean-Philippe. Je tiens à préciser que toutes les manifestations culturelles à Lille 3 sont libres, ouvertes à tous et pas seulement aux étudiants et au personnel, et sont évidemment gratuites.
Il y a une présentation qui est prévue à quelle date à Lille 3
au début du mois d'octobre, le 2 octobre.
Jean-Philippe, oui, alors nous, de même, tout ce qui est organisé par l'Espace Culture Lille 1 est à entrée libre et gratuite, ouvert au grand public. Hein. Notre rentrée se tiendra le 6 octobre, donc à 18h, hein, donc à l'Espace Culture, donc avec une performance dansée, hein, d'une danseuse de l'opéra, et l'inauguration, hein, d'une œuvre d'art contemporain du jeune artiste Dufresnois, hein, qui a été présenté à l'exposition Panorama, hein, donc au mois de juin, et que nous avons retenu pour donc comme première exposition de cette année.
C'est vrai que l'Université Lille 1 travaille beaucoup avec le Fresnois aussi dans la recherche. Hein.
Oui, tout à fait. Enfin, on accompagne un certain nombre de jeunes artistes sur les questions, effectivement, quand leur projet, hein, d'artiste interfère avec les aspects artistiques.
Donc, on aura l'occasion le 1er octobre dans cette émission de parler de
la rentrée culturelle.
De la rentrée culturelle Lille 1. Donc, aujourd'hui, on peut peut-être donner quelques grands traits.
Alors, deux grands thèmes, hein, cette année pour cette saison culturelle, hein, manger, pour mettre en avant la place de l'alimentation, que l'alimentation prend dans nos sociétés, mais pas seulement en tant que manière de nourrir les gens, mais aussi manière de les rassembler, manière de les séparer éventuellement. Pensons aux apéros saucissons pour sélectionner le public. C'est pas anodin, hein. Ce qu'on mange et ce qu'on partage, ce sont des choses qui marquent aussi l'identité des groupes et des personnes. Et deuxième thème sur le secret, secret confronté et ses évolutions avec l'évolution des techniques, évolution de la cryptographie, mais aussi évolution des moyens d'écoute, de scrutation d'Internet, etc. Donc d'une évolution là aussi, un parcours de conférences qui va nous permettre d'explorer les différents aspects du secret dans notre société et les implications et leurs évolutions.
Donc Laurent Brassard, Jean-Philippe Cassard, vous avez des supports qui permettent de faire connaître public vos programmations. On peut peut-être donner quelques outils utiles.
Alors, on y va de tête. Il y a un site, culture@ulnif-lille. Vous allez trouver sur le site de l'espace culture toute la programmation détaillée. Une revue, les nouvelles d'Archimède, qui paraît trois fois par an et qui reprend les thèmes, mais aussi avec des rubriques qui sont des rubriques un peu diversifiées. Et puis aussi un programme de présentation de l'ensemble des activités et des propositions de l'espace culture.
Voilà.
Pour les trois, vous êtes invité à rejoindre le site du service Action Culture de l'île 3, mais aussi à retirer dans plusieurs lieux de la ville, sur l'université, dans plusieurs centres et sites culturels de la métropole, le petit dépliant très facilement identifiable parce qu'elle est de la couleur jaune comme les affiches de Radio Campus, et dans lequel vous trouverez l'ensemble de la programmation. Et n'hésitez évidemment pas à vous rendre sur le site du service Action Culture de l'île 3 et de vous inscrire aux réseaux sociaux pour être informé en temps utile de l'actualité et des événements.
Alors, à signaler bien sûr aussi quelque chose de très particulier à l'île 3, puisqu'il s'agit du cinéma qui existe depuis très longtemps sur ce lieu intégré à l'espace universitaire, le Kino.
Absolument. Le Kino est donc une association indépendante installée dans la salle de spectacle de l'île 3. J'invite donc tout à chacun à s'intéresser à la programmation du Kino, pas seulement parce que le Kino est probablement le cinéma le moins cher de toute la métropole, mais certainement parce que c'est une salle CNC et qu'à ce titre, on peut y voir à la fois des films de ciné-club qu'on n'a plus l'occasion de revoir dans les salles, et on peut aussi y voir des films plus exigeants. Enfin, un des intérêts du Kino est aussi de présenter des films commentés, présentés, qui offrent la possibilité de débat. Donc aller au Kino, c'est faire le choix d'un autre cinéma, et ça, je ne saurais que vous invitez à faire la démarche. Aller au Kino, c'est comme écouter Radio Campus, c'est faire le choix d'une autre radio, d'un autre cinéma indépendant avec une recherche qualitative.
Merci Laurent Brassard, merci Jean-Philippe Cassard et bonne rentrée à tous.
Merci.
Merci.
C'était Lille Info sur Radio Campus. Prochain rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h jusqu'à 16h30. Bonne écoute du 106.6 FM, www.campusil.com. Thank you.